Benzema arrêté pour Ronaldo, passe à Philippe Puig, c'est passé Ronaldo, le bon passant de Cristiano.
El Madrid puede empatar, ojo el córner, ahora lo mete directo, ahí está Modric, el remate.
Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast, un nouveau débrief Real France, la seule émission qui ne parle que du plus grand club au monde, un club doté d'un ADN bien particulier et même cheaté, qu'on peut dire qu'il est cheaté cet ADN, qui a une nouvelle fois permis au Real Madrid de se relancer totalement et de se qualifier donc pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Voilà, on affrontera demain le vainqueur entre l'Atlético de Madrid et le Manchester City. Et on va donc revenir tranquillement sur cette victoire encore complètement folle du Real Madrid. Et avec moi ce soir pour revenir sur ce match, d'abord Coralie. Salut Coralie.
Salut à tous.
Et Rota est avec nous. Salut Rota.
Bonsoir à tous.
Comme d'habitude, hein, je le dis, mais vous pouvez, je le répète sans cesse, mais vous pouvez noter les joueurs du Real Madrid sur l'application Real France disponible sur iOS et Android. Vous pouvez également le faire depuis le site web. Réaction d'après-match, conférence de presse, réaction et tout, tralala, vous en avez l'habitude, sur real-france.fr. Bon, revenons tranquillement donc sur ce match encore qui est tombé dans l'irrationnel, mais on commence à en prendre l'habitude. Rota, j'ai envie de commencer par toi, le petit ressenti à chaud.
Très très heureux évidemment de la qualification, on va pas se mentir, et que ce fut difficile, que ce fut compliqué. Et on va retenir justement, encore une fois, je me répète, j'ai l'impression de me répéter sur les matchs du week-end en Liga, mais on va retenir que la victoire vraiment pour le coup, parce que ça a été vraiment, vraiment compliqué ce soir.
Allez.
Ouais, ben moi je suis d'accord, c'est vrai qu'on le disait avant, c'est inexplicable, parce qu'on fait vraiment 80 minutes affreuses. Le Real revient dans le match grâce à une merveille de Luka Modric, justement cet extérieur du pied pour Rodrigo. Mais ouais, le Real fait un match abominable. Et oui, comme tu dis, Rota, on va vraiment retenir que la qualif, parce que de toute manière, il n'y a que ça à retenir.
Ok. Alors, salut à tous dans le chat. Là, je vois déjà qu'on a du monde. On a du pass qu'on a l'habitude, du Sylvain. On a les habitués. On a Oumar. On a Hichem. On a Olivier. Salut à tous. Salut Sandra. Bon, on va se refaire le petit déroulé. Puis dites-nous dans les coms. Votre ressenti vous aussi à chaud et les points chauds sur lesquels vous voulez revenir. En tout cas, nous on va se refaire le déroulé habituel. D'abord, revenons sur cette composition de départ. Bon, pas de surprise, Coralie, on est reparti sur ce qui a gagné à l'aller.
Ouais, puis sur ce qui a surtout marché à l'aller, parce que c'est vrai qu'à l'aller, on a vu que le pressing avait hyper bien marché et tout. Donc ouais, on n'était vraiment pas surpris en voyant cette composition. En plus, c'est vrai qu'on savait que Militao n'était pas là, donc on savait très bien qu'il allait mettre Nacho. Mais par contre, c'est vrai que dans les intentions, on n'a pas du tout vu la même chose. Alors on les a vus 15 minutes jusqu'au but de Mount, et puis alors après, ça a été abominable. On a vu ce qu'on avait un peu vu contre le PSG, quoi, c'est-à-dire rien.
On a finalement le même 11, mais pas du tout les mêmes intentions.
Pas les mêmes intentions et surtout une tactique adverse qui était bien différente également. Je pense que Thomas Tuchel a fait un peu de communication quand il disait que c'était impossible de revenir. Évidemment, il n'en croyait pas un seul mot. Il savait très bien qu'il avait un plan de jeu fait pour déstabiliser le Real et ça a fonctionné. Ça a énormément fonctionné même. Il a mis sa petite cartouche Loftucci qui était entre le milieu de terrain et le piston droit qui a fait énormément de mal, qui a fait énormément de mal au Real dans la projection. Et en se passant de Jorginho, donc c'est vraiment un vrai choix tactique, chose que n'a pas fait Ancelotti en conservant son 11 de départ. C'est ce qu'il fait à peu près toujours. Hein. Ce qui marche une fois peut marcher 100 fois. Et peu importe ce que l'adversaire peut faire en contrepartie, aucune modification, des changements aussi tardifs. Et comme l'a dit Coralie, ouais, c'est un centre exceptionnel de Modric qui vient débloquer une rencontre qui était bien, bien mal partie, mais vraiment une approche tactique qui m'a déplu, tant par le 11 de départ, même s'il n'y avait pas réellement de surprise, que par, la tactique réellement mise en place, puisqu'on a vu un Real qui a opéré en bloc bas, on sait qu'on ne sait pas faire, qu'on n'a pas les joueurs pour le faire, et que quand on n'opère pas en bloc bas, mais qu'on va chercher l'adversaire, on est bien meilleur, on a fait tout le contraire.
Ok, on a de la réaction, on a du Ziatas qui me dit pas d'accord sur le fait qu'il n'y avait rien. passe d'accord avec ça. Olivier, bref. Sylvain Cuny, Ancelotti avait bien coaché à l'aller et ce week-end contre Etafé, mais là il est retombé dans ses travers. J'ai stressé jusqu'à la fin, dit Michael, effectivement. Autre réaction, certes le match n'était pas bon, l'expérience de la Ligue des Champions fait clairement la différence. Une grande équipe qui sait garder son sang-froid pour Ziatas, effectivement. Pourtant, le Real on rentre bien dans son match, Prota. Franchement, les 10 premières minutes de jeu, elles sont bonnes côté Real. Il y a de la maîtrise. Chelsea a du mal à développer son jeu.
Ouais, il y a de la maîtrise. On les gêne assez. Et puis même tactiquement, j'ai trouvé que je pensais que ce Real-là ne jouerait pas si bas après les 10-12 premières minutes. C'était un bon Real Madrid. Et d'ailleurs, on prend un but sur un petit contre, un petit coup de poker, mais parce qu'on est aussi assez haut défensivement. Donc voilà, je m'attendais à voir un autre Real Madrid et un autre Real Madrid après ce premier quart d'heure. Et puis justement, je pense que le but nous a encore plus donné l'envie de fermer la boutique qu'autre chose. Et c'est là où, encore une fois, je mets le point dessus. Ce fut une erreur.
Pour Ali, les 10 premières minutes sont bonnes. D'ailleurs, on prend un but.
Bah ouais, c'est clair.
La première bonne séquence de Chelsea finalement.
Ouais, c'est ça. Et puis après, il a remis sa tactique complètement frileuse, où justement, comme tu dis, Rota, on attend en bloc bas. En fait, on aurait dit un peu ce que le Real a fait contre le PSG à l'aller, quoi. C'est-à-dire souffre. Et c'est vraiment dommage parce qu'autant à l'aller contre Chelsea, j'ai trouvé qu'on avait vraiment fait un grand match tactiquement. Et alors là, ça n'a pas du tout été le cas. Et bon, après, c'est vrai que Tourelle avait vraiment aussi très très bien préparé son match. On l'a vu avec Loftus-Cheek et tout, même Kovacic-Kanté qui ont fait énormément de mal au milieu. Mais c'est vrai que ouais, Ancelotti n'a pas réussi à s'adapter et il l'a fait après avec ses changements qui ont encore été très tardifs pour moi, avec Kamavinga par contre qui a fait une très très bonne entrée.
Et Adrien qui nous dit comme d'habitude on est dans la souffrance. D'ailleurs autant on en avait un petit peu parlé juste avant le match, on s'est dit je pense qu'on va se qualifier mais on va se faire fort.
Ouais, c'est ça, on se l'est dit. Ouais.
Je l'avais pas senti autant, mais bon, on avait un peu senti que ça allait être compliqué. Autant peut-être pas, mais ouais. Sylvain qui nous dit d'accord avec Rota, le but nous a fait paniquer tactiquement, cueilli à froid. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle pour Aurélien. Bonsoir à vous, ça fait très peur ce soir, mais maintenant on a été fort. Bravo pour la victoire, hasta le final, nous dit Yoela. Par contre, il faut trouver un nouveau joueur en latéral droit. Sama, on va y revenir un peu sur Carvajal. C'est vrai que après, si on continue un peu le déroulé sur la deuxième mi-temps, le retour des vestiaires, rien ne change. On repart sur la même configuration. Chelsea qui domine, le Real qui est très passif. Le Real qui est jamais, mais jamais sur les seconds ballons. Ça. On prend le deuxième. Derrière, on a un léger mieux, quand même, je trouve. Non, pendant 5-10 minutes, on a un léger mieux. On commence à attaquer un peu plus. D'ailleurs, on prend le troisième, finalement refusé pour une main d'Alonso. On peut en discuter, mais bon, je pense qu'elle est factuelle. Je pense que la décision est assez logique.
C'est la règle, c'est dur à encaisser quand on est supporter de Chelsea, mais c'est la règle.
Voilà, finalement, on prend quand même ce troisième but. Là, j'ai envie de dire qu'on se dit que c'est terminé, honnêtement. Et puis on a Modric qui sort sort la passe du chapeau, quoi, Coralie.
Ouais, c'est exactement ça. De toute façon, le Real d'Ancelotti, c'est aussi une somme d'individualité plus qu'un collectif. Et ce soir, on le voit encore, c'est-à-dire que c'est Modric qui fait une passe, mais sensationnelle. Même Rodrigo est bien placé parce qu'il faut quand même la mettre. Et c'est vrai que c'est comme ça que le Real revient dans le match. Après, c'est vrai que Modric, ça a peut-être été un peu le seul, quand vraiment le Real était mal, à être plutôt bien. Parce que c'est vrai qu'alors, ces deux compères au milieu, on va en parler, mais Casemiro, Kroos, c'était très, 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 très compliqué. Et ouais, il fait cette passe-là, et puis après, même le deuxième but, c'est sur une super récupération haute de Kamavinga, qui lance Vinicius, et après pareil, il la met hyper bien sur Benzema, donc ouais, c'est encore deux superbes actions individuelles, et voilà, les deux vieux de l'équipe ont répondu présent.
Vinicius qui fait sa seule bonne passe du match au bon moment quand même.
Parce que c'est vrai qu'il avait été un peu cataract avant.
Rota, commençons peut-être par le positif, avant d'attaquer le négatif, parce que malgré la qualif, il y a quand même beaucoup de négatifs à relever ce soir encore, enfin, on est quand même dans une continuité, on va pas se mentir. Je veux dire, il y a eu l'Atlético, il y a eu le PSG derrière, il y a eu le Barça, il y a eu ce soir. il y a quand même beaucoup de choses négatives à dire, mais commençons peut-être par le positif. Positif, je pense que tu vas encore me parler de l'ADN de ce Real qui lâche rien.
Forcément, ouais, forcément l'ADN et puis ouais cette mentalité-là, comme le disait Nacho, j'ai regardé le match sur Movistar, Nacho le disait, au Real, on est pour ne rien lâcher, on est en sachant qu'un match n'est jamais terminé et c'est ce qui s'est passé. Et c'est là où en fait c'est regrettable de voir le Real, que le Real se soit mis dans une telle panade, c'est que à partir du moment où le Real est mené 3-0, malgré des changements qui pour moi n'étaient pas forcément les bons de base, j'aurais pas mis Rodrigo devant Bale ou Asensio, j'aurais pas mis Marcelo malgré que Mendy était en difficulté. Mais ouais, on a cet état d'esprit, cet ADN, cette envie. Et à la 80e minute de jeu, quand le Real est dos au mur, le Real n'est jamais meilleur que quand il est dos au mur plutôt. Et il l'a encore prouvé puisque les 40 dernières minutes sont clairement bonnes. Et je pense pas que ce soit parce que Chelsea était emprunté. Non, c'est parce que le Real a regardé pour la première fois dans le match Chelsea dans les yeux. Et ça a changé absolument toute la physionomie du match.
Et puis surtout, enfin, j'ai l'impression que le Real, à chaque fois qu'il a un gros score à l'aller, se fait un peu toujours dessus. Je me souviens quand on avait affronté la Juventus pour le péno de Cristiano Ronaldo et tout, pareil, le Real avait pris une pile à l'aller et finalement on est sauvé dans le temps additionnel par le penalty de Cristiano. Donc tu te dis en fait c'est quelque chose qui arrive souvent et après voilà, quand tu tues pas le Real, de toute manière, il peut toujours revenir et c'est ce qui s'est passé parce que le Real n'a pas énormément d'occasions ce soir, mais finalement celles qu'ils ont, eh bien, ils les mettent, contrairement à Chelsea, où par exemple la tête d'Havertz, à un moment donné, je me suis dit, mais à la place, c'est Benzema, il y a but, quoi. Et même pas, il la cadre. Donc je pense qu'il y a ça aussi. C'est que le Real, quand il a une occasion, il la met. Et c'est ça aussi qui fait la différence. Et on a vu pareil contre le PSG.
À l'époque, contre la Juve, on disait que c'était l'absence de Ramos qui expliquait justement cette faillite, caractère et compagnie. Mais finalement, aujourd'hui, là. Rota, c'est un point qui est intéressant finalement, Rota, que le problème, c'est pas plutôt que ce Real n'est pas capable de défendre un résultat, enfin de juste défendre en fait.
Je l'avais posté sur Twitter dans l'après-midi, moi je savais qu'il fallait se méfier. Le Real Madrid historiquement, et Coralie l'a dit, notamment je pensais justement à la Juve, mais à bien d'autres matchs, il y a eu la Roma par le passé, il y a eu énormément d'adversaires qui, quand le Real Madrid part avec un score plutôt assez favorable au match aller, et qu'il reçoit, c'est très compliqué. Et c'est assez paradoxal, puisqu'il n'y a pratiquement aucun autre club qui, en l'emportant 3-1 à l'extérieur, tremble derrière. Mais le Real, c'est, comme tu le dis, une équipe qui, malheureusement, ne sait pas défendre un score, que ce soit en cours de match ou en cours de rencontre à double match. Et on l'a encore vu aujourd'hui, le Real a abordé ce match en tant que favori, enfin en ayant l'avantage au score, mais de manière timorée, de manière timide. Et c'est là où il est malheureusement le plus dangereux pour lui-même.
Direction Roland. J'ai peur pour la fin de saison physiquement, dit Naïbaf. Fin de saison, on l'abordera peut-être un petit peu sur la fin. Modric est plus précis avec son extérieur du pied que 90% des joueurs de Ligue 1 en plat du pied, dit Olivier. Kamavinga doit être titulaire indiscutable. De Grasse nous dit, sérieux, il n'y avait pas corner sur le deuxième but. Où est la VAR sur ce cas? Alors la VAR n'intervient pas justement sur ce genre de situation. C'est uniquement penalty ou potentiel carton rouge, ça il me semble.
Y a pas penalty, d'autres... situation de carton rouge, ouais, c'est ça.
Ouais, sur un hors-jeu, tout ça. Enfin, sur une action du but, mais du coup, le corner, c'est l'action précédant le but, donc ils ne reviennent pas dessus, ouais. Kosovic Inis Benzema est au bout du rouleau physiquement, il faut en parler Real France. Ok, on parlera un peu de Benzema après évidemment. On a remarqué l'absence de Militao. On a remarqué surtout la présence de défense. C'était un peu compliqué ce soir. Finalement, on a mieux tenu avec Carvajal en défenseur central, mais on va y revenir. Militao fait du bien en défense. Ok, Varcoron. Schalke aussi en 2015. Schalke quoi aussi. Après le 2-0 à l'aller, le retour c'était n'importe quoi. Exactement, Omar. Et bon, si on revient un peu sur ce match, finalement la grande victoire c'est Tuchel ce soir qui livre quand même une grosse masterclass à Carlo Coralie.
Ouais, bah clairement, le fait qu'il ait mis Loftus-Cheek, franchement, je pense, ça a déjoué tous les plans de Carlo parce que il était là au milieu de terrain, il était là sur les ailes, et franchement, il a fait hyper mal. Et puis vraiment, Kovacic, il faut en parler. En plus, c'est un ex-joueur du Real, il a fait un travail monstrueux, autant à la récupération que quand il devait faire la première relance, que quand il était près des cages et tout. Enfin, en attaque, et alors le duo Kanté Kovacic a complètement annihilé le milieu du Real. Donc c'est pour ça qu'ils étaient si hauts, et c'est pour ça aussi que quand tout à l'heure tu disais, eh ben le Real reprenait plus du tout les deuxièmes ballons, mais parce que derrière ils étaient tous là. Donc en fait c'est pour ça. Et ouais, franchement Tourelle, il a vraiment sorti, il a vraiment travaillé son match pour le coup, parce que c'est vrai qu'à l'aller je trouve qu'il était un peu passé à côté. Alors par contre le retour, il l'a vraiment vraiment bossé.
Passons un peu sur les joueurs là, du coup, Rota, ton. On va dire le. Parlons peut-être du. Commençons peut-être par le meilleur, le moins pire des pires.
Alors
T'aimerais
moi,
relever qui?
je vais peut-être surprendre du monde, mais moi, j'ai énormément aimé Dani Carvajal. Enfin, énormément aimé. Non. On va dire que le moins mauvais a été pour moi. Je vais revenir sur Courtois, qui fait encore une parade au sol exceptionnelle, mais pour ne pas citer toujours le Belge, je vais parler de Carvajal parce que j'ai trouvé qu'il a quand même récupéré un paquet de ballons. J'ai trouvé qu'il s'est énormément battu. Je parle surtout défensivement. J'ai pas trouvé qu'il a été énormément aidé par le positionnement de Valverde et Modric, surtout en première mi-temps, sur le repli. Et en plus, il passe ensuite central. Et pareil, là, il a été énorme. Il a coupé à droite, il a coupé à gauche. Je me souviens sur une touche, il vient couper sur le côté gauche alors qu'il est central droit. La touche d'après, il vient suppléer Lucas Vasquez qui était monté et il coupe une action de 2 contre 1. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il était précieux. Tout n'a pas été bon. Il y a eu des pertes de balles. Il y a eu un placement assez litigieux quelquefois. Il y a eu des errances au marquage, notamment sur des centres. Mais ça, c'est pas que lui, c'est un peu les quatre. Mais je pense qu'on a vu un Carvajal, en tous les cas, qui est sur la pente ascendante depuis quelques temps. Et ça m'a plu, même si c'était pas immense aujourd'hui.
Coralie sur Carvajal, c'est vrai qu'il y a du mieux. Alors, il fait quelques trucs bien bien dégueulasses quand même dans ce match.
Ouais.
Pense à deux bonnes. Là, j'ai deux relances en tête, une fois où aussi il tacle un peu n'importe comment. Mais à part ça, c'est vrai qu'il fait quand même deux trois trucs intéressants aussi.
Paradoxalement, je l'ai trouvé mieux en centrale qu'en latéral. C'est vrai que quand Nacho est sorti, je me suis dit, oh là, Carvajal en défense centrale, ça va être un peu particulier. Et finalement, je l'ai trouvé vraiment solide et j'ai vraiment été agréablement surprise en tant que centrale. Après, ouais, c'est vrai qu'en tant que latéral aussi, j'ai trouvé qu'il y avait eu beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'erreurs techniques. Et du coup, pour moi, il peut pas être le meilleur du match à cause de ça. Mais par contre, en centrale, je l'ai trouvé vraiment plus solide.
Je dis Fabien aussi, Dani meilleur a été meilleur en centrale qu'en latéral droit. C'est vrai qu'il a été extrêmement bon. Dans la lecture du jeu, tout ça, je l'ai trouvé absolument fort. Voilà, il a juste eu un déficit de taille évidemment sur un duel aérien, mais grosse perf effectivement. Continuons peut-être sur voilà. Allez, un autre joueur peut-être qui sort un peu du lot pour vous. Bon, allez, vas-y.
Camavinga pour moi. Franchement, moi, Camavinga, parce que j'ai trouvé que justement, quand il est entré en jeu, on a vu un Real qui sortait bien mieux la balle. Parce que c'est vrai que Kroos et Casemiro, c'était abominable tout le match. Et dès qu'il l'a fait entrer, lui, de toute façon, il se propose. Il a vraiment une personnalité de fou. Et puis le deuxième but, il vient sur une de ses récupérations de balle. Donc moi, vraiment, je dirais Camavinga, parce qu'à 19 ans, pond un match impressionnant. Je trouve vraiment qu'il a été très fort ce soir.
Ouais, Rota sur entrant en jeu de Kamavinga.
Ouais, moi je suis assez d'accord. Camavinga, ce qui me bluffe, c'est qu'à 19 ans, il a cette maîtrise, il a cette intelligence de jeu. Je me souviens aussi d'un fait de jeu où il vient faire une faute pour prendre son carton jaune qui coupe une action où Mount est à deux doigts de donner un ballon qui donne un contre un. Ça, il faut avoir la lucidité et en tout cas l'expérience de faire ce genre de faute, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment des fautes qui sont très très importantes, qui sont très intelligentes. Et il a surtout une protection de balle incroyable. Il arrive à jouer dos au but, à protéger son ballon et à orienter de manière assez incroyablement simple. Et je trouve que c'est une qualité qui est très très rare pour un joueur de son âge. Donc ouais, beaucoup de maturité, beaucoup de sang-froid, beaucoup de sérénité. Et c'est très très bon augure pour la suite. Ouais.
Okay. William qui me dit Valverde a un volume titanesque, c'est incomparable. Camavinga titule la saison. C'est quoi de la réaction de. Non, ouais, on va l'évoquer. D'abord, peut-être pour continuité, on a parlé de Camavinga, on peut parler aussi de Valverde. Effectivement, qui a eu un volume de jeu absolument fou, qui a commencé le match en latéral droit et qui s'est tenu à ce poste pendant bien 1 heure de jeu quasiment, avant que Carlo décide enfin de le faire jouer un peu plus axial. Vous l'avez trouvé comment, Valverde? Rota?
Alors ouais, son positionnement m'a beaucoup dérangé, mais je pense que c'était la consigne. Je l'aurais plus vu dans un rôle très hybride comme il a eu au match aller, quitte à refaire un bis repetita, autant le faire jusqu'au bout. Mais là, ça n'a pas été le cas, comme tu dis. C'était un second latéral droit qui vraiment collait la ligne quand on avait le ballon, mais qui nous empêchait dans les phases de contre d'accélérer et d'avoir un vrai ailier capable de provoquer. Ça m'a un peu manqué. Après, je trouve que tout n'a pas été bon de la part de Valverde. Par contre, oui, je regardais encore une fois Movistar tout à l'heure. Il a parcouru. C'est le deuxième joueur derrière, je ne sais plus quel joueur de Chelsea qui a couru le plus de kilomètres. Il était à 15 km 730. Et ouais, pour le coup, il a énormément cavalé. Il a énormément, énormément cavalé. Et son volume de jeu est impressionnant. Il y a beaucoup de manques techniques encore, beaucoup d'errances, des choix qui n'ont pas été les plus judicieux. Mais c'est vrai que le travail de l'ombre qu'il a pu réaliser, notamment par son placement, son repli et puis ses courses pour presser l'adversaire, ont été très très précieuses. Donc ouais, encore un match plutôt très bon de sa part malgré tous ses défauts techniques.
Ali.
Ouais, moi je suis plutôt d'accord et je l'ai préféré quand il est revenu au milieu justement. Quand Rodrigo est rentré, je l'ai trouvé meilleur après quand il est repassé à son poste originel au milieu. Et ouais, il a une telle activité. De toute manière, il court partout. Il essaie toujours de récupérer des ballons. Comme tu dis, c'est lui qui a fait le plus de kilomètres, certainement du côté du Real. Donc ouais, pour moi, il a fait un bon match. Alors c'est vrai qu'il doit encore polir notamment sa technique, mais en même temps, c'est vrai que ce sera jamais un génie comme Modric. Et du coup, tant qu'il arrive en fait à maximiser ses qualités, bah, c'est tout bénef pour le Real en fait. Donc c'est ça, moi je trouve qu'il a fait un match correct ce soir aussi.
Aurélien qui nous dit, je suis d'accord avec toi, Coralie, il nous a fait un match de daron, Kamavinga. Cross, il commence à me gaver par contre. Il y a Inpasta. Valverde, pas aussi bon que d'habitude, mais un volume de jeu impressionnant, dit Madi. Ouais, à la 120e minute, d'ailleurs, c'est avec Benzema qui est en train de pourchasser.
Avec Ceballos, ça c'est les trois,
Ouais. Pour les empêcher de relancer, ce qui nous a fait gagner eh bien 30 secondes.
ouais. Grave.
Potentiellement une action pour Chelsea, en tout cas un ballon qui aurait pu traîner en plus dans la surface. Valverde, c'est le futur capitaine du Real, quel coffre. Ouais, c'est en plus c'est possible. Il arrive assez jeune, c'est pas impossible qu'il ait une grande carrière au Real, c'est pas impossible.
C'est à l'ancienneté de toute façon, donc oui,
Ouais,
c'est
non, mais
possible.
c'est pour ça. Il n'y a pas de son âge, on n'a pas d'autres joueurs avec autant
D'année, ouais.
de vécu. N'empêche, j'ai peur que physiquement on le paye assez vite. Ok. Parlons de Kroos et enfin du reste du milieu globalement, mais commençons par Kroos. Kroos qui fait pas un match foufou. Effectivement, il a une réaction un peu agacée. Bon, je pense que c'est pas ça dont forcément parler le plus. Et Kroos qui fait un match encore compliqué dès lors que voilà, on se retrouve face à un adversaire qui met beaucoup d'intensité et en même temps qui sait être organisé tactiquement. Ali.
Bah oui, de toute façon, c'est toujours le même problème avec lui. Alors autant au match aller, moi, il m'avait bluffé parce qu'il fait un très bon match. Mais alors là, ouais. Et puis moi, en fait, ce qui est fou, c'est que tu peux pas faire un pressing avec un joueur qui ne court pas. Le souci, c'est ça, en fait, c'est que Kroos ne court pas. Donc à partir de ce moment-là, bah, tout de suite, ouais, pour ta défense, ça devient compliqué. Et puis oui, ça fait quelques semaines qu'il est vraiment dedans, sauf contre Chelsea. Mais ouais, on sent qu'il paye ça. Et pour le niveau Ligue des Champions aujourd'hui, Kroos, bah, ça devient problématique. Alors pour les matchs de Liga et tout, les petits matchs, ça va. Mais pour les gros matchs de Ligue des Champions où il y a énormément de pressing, ouais, ça devient compliqué. Et après, pour sa réaction sur sa sortie, moi, je pense qu'il est aussi peut-être déçu de son match parce que c'est quand même quelqu'un qui est très perfectionniste et je pense que dans sa tête il le sait qu'il n'a pas fait un bon match donc je pense que ça vient aussi de ça et on voit très bien que quand Valverde et Camavinga sont repassés au milieu, ben le milieu du Real a eu une autre gueule quoi parce que ouais, Kroos, ben ouais, quand t'as pas d'énergie pour courir, ben tout de suite ça devient compliqué quoi.
Alors moi je suis plus ou moins d'accord. Je suis évidemment pas fan de son match, même si je l'ai pas trouvé autant catastrophique que ce qu'on en dit, en tous les cas, par rapport à ses compères. Sur la première mi-temps, je vois un Modric bien plus invisible que lui, que ce soit défensivement comme offensivement. Mais c'est vrai que son match n'est pas forcément bon, et c'est vrai que ça fait quelques semaines qu'il est en dedans, comme le disait Coralie. Moi, ce que je pense, c'est que c'est quelqu'un qui est fatigué, très, très, très certainement. Je pense qu'il souffre de fatigue physique. Et surtout, et là, c'est pas lui, en fait, le problème, c'est Carlo Ancelotti. Il y a des matchs comme celui d'aujourd'hui où quand tu as envie de jouer en bloc bas, ou en tous les cas que tu souhaites très certainement subir, Toni Kroos n'est pas un joueur adapté à ce milieu de terrain du Real Madrid. Donc, il aurait pu mettre Camavinga d'entrée de jeu, même si je suis un peu moins d'accord avec les avis dans les commentaires. Camavinga, titulaire indiscutable au Real Madrid. Attention, attention, parce que ça, c'est des choses qu'on dit souvent quand un joueur est un peu en dedans et que l'autre fait quelques entrées spectaculaires, mais ça ne se passe pas comme ça au final. Jouer 40-50 matchs de très haut niveau en étant titulaire à 19 ans, il faut m'en citer des joueurs de 19 ans qui l'ont fait. Et le dernier, c'est peut-être Clarence Seedorf. Donc, attention avec ça, je pense que c'est un peu prématuré pour le dire. Mais effectivement, Toni Kroos, dans ce genre de match, il n'est pas forcément à sa place. Comme le disait Coralie, ce n'est pas quelqu'un qui court et ce n'est pas quelqu'un qui a une densité physique énorme pour défendre et pour être sur l'homme. En plus, il est assez lent, entre guillemets. Donc, c'est plutôt un mauvais choix, moi, de la part d'Ancelotti par rapport à ce qu'il a souhaité mettre en place. Si vraiment la tactique, c'était ce qui s'est passé, et pas qu'il se soit fait bouffer et totalement surprendre par Chelsea, ce dont je n'imagine pas, je pense que ce n'était pas l'homme de la situation. Il aurait pu mettre un ailier qui défend, par exemple, un Marco Asensio, et puis passer Valverde au milieu de terrain à sa place, ou alors titulariser d'entrée de jeu Camavinga, ou encore Ceballos, mais c'est vrai que Kroos n'aurait pas été, à mon sens, la première option dans ce type de milieu de terrain.
Bah, de toute façon, on a dit là, il y a quelques minutes que le Real ne savait plus, en tout cas, tenir un résultat et défendre bloc bas face à une équipe tant de potentiel comme peut avoir Chelsea. Kroos fait partie justement des joueurs qui justement posent un gros problème à ce Real au moment de défendre. C'est-à-dire Kroos, tu mets un petit coup de rein, une petite accélération et le gars se retrouve derrière toi. Dans les duels, c'est pareil. Et pourtant, je trouve qu'il a pas manqué de volonté. Hein. Dans les duels, tout ça, je trouve qu'il a été au combat. Mais
il est au combat, mais contrairement à Fede Valverde, c'est justement là où lui est moins sensationnel. C'est que son volume de jeu ne lui permet pas d'être un joueur très bon défensivement sans ballon, tout simplement.
Bon, Ali, tu veux réagir?
De toute façon, oui, mais en plus, c'est vrai qu'on entend souvent Casemiro, par exemple, je crois que c'était Casemiro qui l'avait dit dans une interview, que c'était Kroos le métronome du Real, justement, c'était lui qui dictait le jeu. Et face justement à des équipes où justement bah, il y a énormément de pressing et tout, le Real coule parce que justement c'est lui qui dicte aussi le jeu de ces équipes-là. Alors comme tu dis Rota, avec ballon, c'est pas pareil. Que tu aies un Kroos dans ton équipe, c'est toujours bien parce qu'il trouve toujours des lignes de passe exceptionnelles. Enfin voilà, c'est un passeur hors pair. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le foot à haute intensité, ça peut être compliqué quand on demande justement à des footeux d'avoir un énorme volume de jeu et un énorme coffre. Parce que lui, il se repose plus sur sa technique et tout. Mais par contre, c'est vrai qu'en phase défensive sans ballon, ben ouais, c'est compliqué parce qu'il court pas. Mais il a jamais couru de sa carrière, ça a toujours été.
Adrien qui nous dit rien de choquant sur sa réaction à sa sortie. Il est agacé, mais vient quand même saluer Carlo. Kroos a besoin que l'équipe prenne le contrôle. Il est à la peine physiquement. Voilà, bon, ça regroupe bien ce qu'on vient de dire. Puis effectivement, ouais, hein, je pense que sur la réaction, on est tous d'accord. Vous parlez de mécontentement de son propre match parce qu'effectivement, il est perfectionniste. Même si c'est un coup de sang, enfin franchement, il y a rien de. C'est un compétiteur, le gars il sort, il est un peu vénère, il y a rien de fou. Par contre, je suis d'accord avec Rota, Camavinga en sortie de banc, c'est parfait. Peut-être encore juste pour être titulaire indiscutable. Pour le coup, je pense que Carlo le gère plutôt bien, nous dit Adrien. Ouais, je suis d'accord. Après, ça peut dépendre aussi de la configuration du match, hein, comme on l'a dit Rota. Sur certains matchs, il peut être profil peut être beaucoup plus et utile. Parlons de Modric. Rota, t'as dit que sur la première mi-temps, notamment, tu avais trouvé Modric plus effacé que les autres. Enfin, que Kroos, par exemple. Et finalement, est-ce que, encore une fois, le problème, c'est pas Carlo? Parce que moi, ce qui me gêne énormément avec Modric, c'est qu'on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bas sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est curieux. C'est quand même bizarre que une des seules fois où on arrive à le trouver dans les 30-40 derniers matchs 30-40 derniers mètres de Chelsea, bah, il se passe un coup de génie, il se passe quelque chose, et puis ben. Bah...
Ouais, c'est ça. Alors, j'ai peut-être été un peu loin en disant qu'il était plus effacé que Kroos, c'est peut-être pas réel, mais en tout cas, je l'ai trouvé effacé. Je l'ai trouvé effacé, mais en même temps, j'ai trouvé le Real très effacé et le milieu de terrain du Real très effacé. J'ai pas trouvé que c'était un très grand Modric, mais c'est vrai qu'on arrivait à trouver personne entre les lignes et on n'avait pas de relais, entre la ligne défensive et la ligne offensive. Donc, c'est vrai que les trois n'étaient pas à leurs aises. Mais oui, après, forcément, quand Modric, on le trouve, comme tu le dis, plus haut sur le terrain, quand il arrive à recevoir des ballons entre les lignes et qu'il a le temps pour distiller, parce qu'il n'y a pas eu que la passe sur le but, parce que la passe sur le but, voilà, on a vu certainement le but de l'année avec Payet en Conference League la semaine dernière. On a certainement vu la passe de l'année avec celle de Modric. Bref, c'est un geste de génie, c'est sensationnel. On sait qu'il a un extérieur du pied magique, mais là, le donner dans le bon tempo, en étant pressé, bref, c'est sans mots. Mais il y a eu 2-3 ballons distillés, notamment à Vinicius et Rodrigo plus tard, où on l'a vu. Ouais, comme tu le disais, il est très très dangereux s'il arrive à toucher le ballon dans la deuxième partie de terrain, dans la partie de terrain adverse. Et c'est encore une fois après ce premier but qu'on a pu, après le troisième but de Chelsea, qu'on a pu voir un Modric qui prenait un peu plus d'aise et un Real Madrid un peu plus haut. Et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça devrait fonctionner et qu'on ne devrait pas attendre d'être mené au score pour essayer de trouver plus haut sur le terrain.
Ce qui se passe, c'est que je trouve plutôt Casemiro comme étant le milieu du Real le plus haut sur le terrain.
Ouais, ça, c'est pas possible, quoi. Surtout quand on voit les pieds qu'il a, c'est pas possible. Mais après, pareil, le regain de Modric vient aussi du fait que Camavinga et Valverde se sont replacés au milieu. On en revient toujours au même. Et d'ailleurs, sa prolongation, je l'ai trouvé vraiment énorme parce que même il n'a pas eu de crampe. On le voyait des fois pressé. À un moment, on le voit reprendre une balle. Il est latéral gauche. Tu te dis, en fait, vraiment, il court partout. Il a un coffre, lui, pour le coup, vraiment énorme. Et justement, ouais, après, dès son geste de génie, on l'a senti un peu plus dans le match. On l'a senti bien mieux parce que c'est vrai que Kovacic et Kanté aussi font un énorme match en face. Et ouais, vraiment, on l'a senti bien mieux après et notamment en prolongation.
Mais Modric, d'ailleurs, il n'est pas meilleur. Enfin, peut-être, hein, mais Modric, il est quand même meilleur. Et pas meilleur quand il se retrouve avec deux milieux à côté de lui qui courent, galopent. Moi je le trouve extrêmement bon à chaque fois quand il a deux mecs à côté de lui qui cavalent, comme Camavinga et Valverde par exemple.
Alors ouais, mais après c'est compliqué d'imaginer cette structure-là au milieu de terrain. Parce que tu mets qui? Tu mets Camavinga en 6 niveau.
Là sur la fin de match, Modric il termine même en 6. Hein. C'est lui la pointe basse.
Ouais, je sais pas si c'est viable sur le long terme. Après, moi, je suis aussi quelqu'un qui préfère swiper ou modeler ses milieux de terrain par rapport à un système tactique en face. Donc, ça me surprendrait pas de le voir dans certains matchs ce milieu-là. Après, de l'avoir comme milieu récurrent, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je demande à voir, mais je suis pas sûr qu'avec deux joueurs un peu moins expérimenté, ce soit très efficace sur le long terme.
Et on a Moïse qui nous dit Casemiro est catastrophique cette saison, c'est pas possible, mon Dieu. Moi, sur Casemiro, qui sortait quand même deux gros matchs, non, parce que contre Getafe, moi je l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça contre Getafe, même s'il marque. Il sortait en tout cas d'un très très gros match, son match référence de très loin contre Chelsea à l'aller. Bon, allez, tu l'as trouvé comment ce soir?
Non, horrible. Franchement, même ses pertes de balles, il perdait des ballons, mais tellement dangereux. Puis avec ballon, ouais, c'est toujours. De toute façon, quand il est pressé, lui, c'est pareil. Quand il est pressé, il perd toujours des ballons énormes. Et d'ailleurs, on le voit, c'est quand le Real avait affronté City que Varane fait ses deux bourdes. Pep Guardiola, en fait, il le pressait parce qu'en fait, il savait très bien que si tu lui coupes justement justement pour les passes pour Kroos et Modric, il sait rien faire d'autre. Et quand tu le vois des fois jouer en 10, tu te dis mais c'est pas possible. Et comme par hasard aussi, le regain du Real est venu quand Modric était un peu plus haut sur le terrain, c'est logique. Et ouais, moi vraiment, alors à l'aller, je l'ai trouvé vraiment bon, notamment dans ses récupérations et tout, enfin, il avait vraiment été bon. Et là, ouais, moi je l'ai trouvé vraiment mauvais ce soir.
Ah.
Non, moi je partage cet avis. Après, pareil, sans lui donner trop d'excuses, je pense que c'est vraiment pour le coup le joueur du Real qui depuis 3 ans joue le plus, que ce soit avec le Brésil ou avec le Real, c'est 90 minutes
C'est
sur
vrai.
90 minutes. Et c'est vrai que je pense que forcément ça doit impacter ça, mais c'est vrai que sa saison est pas bonne du tout. Il a quelques matchs références, comme tu l'as dit, contre Chelsea, mais je pense que cette saison, pour le coup, on les compte sur les doigts de la main. Et oui, c'est sûr qu'avec un, en tout cas, avec un remplaçant de renommée ou un remplaçant vraiment à sa hauteur, ce serait et plus évident pour lui parce qu'il aurait un peu moins de temps de jeu et puis et meilleur pour le Real parce qu'il y aura un peu de concurrence. Donc c'est un peu ce qu'on répète depuis 2 ans. On aimerait qu'il soit concurrencé et qu'il ait quelqu'un qui lui tape le cul parce qu'on sait très bien que par contre c'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui a la dalle, c'est un très très bon récupérateur et au-delà de ses qualités techniques peut-être parfois limitées. C'est un très très bon joueur. Donc ouais, j'ose en tout cas, j'espère penser que c'est dû à la fatigue, mais c'est vrai que sa saison est pas bonne.
Après, tu sais, tu parles de concurrence, mais avec Carlo, il n'y en a pas. Donc, même si tu lui mets un très bon milieu défensif dans les pattes, je suis pas sûre que Carlo le fasse moins jouer ou le mette sur le banc. Je pense que malheureusement, son statut aujourd'hui est trop gros.
Comme beaucoup.
Ouais.
Après, ça peut. À terme, ça peut. Aujourd'hui, il y a par exemple Valverde. Je pense que c'est difficile de sortir du 11. Hein. Il est obligé de. Il est obligé de bricoler, oui et non, parce que c'est un match aller, mais.
Ouais, mais dans son esprit, en tant que joueur potentiellement, enfin, en tant que joueur qui peut jouer sentinelle, je pense qu'il n'en voit pas d'autres.
Alors,
Je pense
Sentinelle,
qu'à
ouais.
partir du moment où il est à 100%, et puis Carlo les voit tous à 100% à tout moment de l'année de toute façon, donc c'est simple, je pense qu'il tentera jamais de mettre Camavinga au départ d'un match couperet, jamais de mettre Ceballos dans un match couperet. Encore moins Antonio Blanco et encore moins Valverde à ce poste-là. Et encore moins, je pense, que tu disais tout à l'heure, Modric en pointe basse et puis Valverde-Cruz, par exemple. Enfin, ou Valverde-Camavinga. J'aimerais voir ça. J'aimerais avoir un peu de changement, des choses tentées. Je préférerais, limite, qu'on prenne une volée comme on a pris aujourd'hui dans le jeu avec ces tentatives-là, plutôt que de garder ce milieu de terrain coûte que coûte et puis subir de la même manière qu'on peut s'attendre depuis des semaines et des semaines.
Parce que finalement, ce match, à mon sens, c'est une preuve de plus que ce milieu de terrain-là, il est au bout. Il est au bout. Enfin, c'est pas qu'il est complètement mort enterré et qu'on peut, mais c'est plus, peut plus être la seule option du Real Madrid. Enfin.
C'est ça. Ça peut pas être l'option à 45-50 matchs par saison, ça c'est clair.
Alexis nous dit Tchouaméni. Tchouaméni, typiquement, c'est le genre de joueur, à mon avis. Ouais, non seulement c'est un profil un peu différent, mais en plus, je pense que c'est un joueur qui a le potentiel pour effectivement faire bouger quelque chose. Enfin,
Je pense
ouais.
que ça va être un des réels objectifs du Real. Je pense que le Real n'en parle pas trop. En tout cas, la presse n'en parle pas énormément, mais je pense que ça va être un réel objectif.
Je pense aussi, ouais. C'est un joueur dont tu as besoin, puis c'est. Ça pue le talent générationnel, donc généralement. Sylvain qui dit Casemiro a joué trop de matchs depuis trop d'années, j'ai l'impression que le rythme le tue. C'est un peu ça, hein, finalement, c'est compliqué hein, de rester au top pendant 5-6 années consécutives. Lui, il l'a fait quand même pendant pas mal d'années. Et là, effectivement, cette année, c'est un peu l'année de trop. C'est l'année où il a. Bah, c'est peut-être une année un peu couperet où il va avoir besoin de casser longtemps. Où... Il va falloir un électrochoc, un vrai concurrent ou quelque chose comme ça. Tuchel parle de l'arbitre, il a un truc contre le Real, il nous prend pour des guignols. Ouais, bon après un tel match comme ça, je peux le comprendre hein, qui un peu vert et qui disent un peu tout et n'importe quoi. Hein.
Après, c'est toujours pareil, ils vont revenir sur la main, mais ils parleront jamais du corner qu'il n'y a pas sur le deuxième but. C'est toujours comme ça, quand on est contre le Real Madrid, on trouve un peu ce qu'on veut dans le sens qu'on veut.
Ouais, après franchement après un match comme ce soir, je peux comprendre que le gars il soit.
Oui, bien sûr.
Qui soit perdu, qui dise un peu, ah, pas qu'il dise n'importe quoi, mais qui se rattache à ce qu'il peut. C'est tout le monde, première fois que je vois vos têtes. C'est incroyable, le Real est éternel à la Madrid. Tchouaméni fera du bien au Real, on est d'accord. Vivement dimanche, alors à Séville, Casemiro ne sera pas là. Sera pas là. Intéressant de voir comment Carlo va moduler un peu tout ça. Parlons un peu des défenseurs, parce qu'on a fait le tour au milieu de terrain. Alors, on l'a vu 5 minutes, donc on va pas juger. La défense, on a un joueur qui a été, j'ai vu revenir un peu dans les coms, un joueur qui a été très très en difficulté, c'est Ferland Mendy. Qui a failli d'ailleurs nous coûter le troisième but. C'est lui qui perd ce ballon complètement bêtement, très bêtement. Mendy, quelque chose à dire sur lui. Je trouve quand même que depuis quelques mois, il est particulièrement en difficulté. Il alterne un peu le chaud et le froid. Il avait été un peu mieux sur les derniers matchs. Mais on se rappelle que contre le PSG, déjà, il avait été catastrophique. Match aller.
On revenait de blessure, ouais.
Ouais. Bah, ces blessures qui sont quand même un peu récurrentes. Saison. Un mot sur son match déjà, Coralie?
Ouais, c'est vrai qu'il est pas bon. Ben, déjà techniquement. Alors c'est paradoxal parce que des fois il va faire des trucs techniquement, tu vas te dire c'est incroyable, comme ben, contre Etafé, là où il se sort du pressing, voilà, où il fait même une roulette et tout. Et puis des trucs simples, il les rate, c'est un truc de fou. Enfin, vraiment, même sa conduite de balle et tout, de l'intérieur du pied, c'est très très bizarre. Et ouais, alors autant défensivement, il fait toujours le taf. Enfin, bon, pas trop ce soir, mais normalement, habituellement, il fait le taf. Mais par contre, je trouve qu'offensivement, c'est pas possible. Et d'ailleurs, même ses centres, ça arrive toujours au 15e poteau, machin. Et ouais, ce soir, en plus, comme tu dis, il a failli nous coûter le troisième but. Et non, moi, vraiment, je l'ai trouvé vraiment pas bon ce soir.
Moi, je vais me faire l'avocat du diable encore une fois. Plus ou moins pas d'accord. Pas trop d'accord, mais moi, je trouve que défensivement, c'est pratiquement le premier nom à cocher. Je trouve qu'il n'y a personne qui est passé de son côté encore une fois aujourd'hui. Et je pense aussi que c'est une réelle consigne dans ces matchs-là de la part d'Ancelotti, mais je ne sais pas si vous le remarquez, mais que ce soit contre le PSG, que ce soit contre le Barça, que ce soit contre l'Athletic Bilbao ou encore contre Chelsea, aller comme retour, c'est très très rare de voir et Dani Carvajal et Ferland Mendy centrés. C'est très très rare de les voir haut sur le terrain. C'est très très rare de les voir dédoubler. Et je pense que c'est une réelle consigne parce que Ferland Mendy, sur le début de match, il m'a fait péter un plomb sur les premières 20 minutes. Il est 3 ou 4 fois devant Loftus-Cheek et il a la puissance, il a la vitesse pour le déborder et pour apporter offensivement. Et on voit que volontairement, il ne le fait pas. Et je suis persuadé que ça reste une consigne de Carlo Ancelotti parce que je ne l'imagine pas un joueur se dire, putain, je suis devant, je peux accélérer. Il le sait quand même. Il sait très bien qu'une fois lancé, Ferland Mendy, même s'il n'a pas d'énormes qualités techniques, il est capable de remonter la balle sur le terrain et de faire au moins des différences en vitesse. Il ne l'a pas fait une seule fois, il a eu au moins trois ou quatre situations. Dans ce délire-là. Donc, je pense que c'est une consigne, ou en tout cas, si ça l'est pas, oui, alors là, c'est vraiment problématique et offensivement, il vaut pas grand-chose, mais j'ai du mal à le croire. Après, c'est vrai que c'est pas le plus grand des centreurs, mais je pense que le meilleur centre du match, c'est le sien. Le sien qui passe juste devant Benzema, je pense que c'est le meilleur centre du match du Real. Si on considère, pas si on considère la passe de Modric comme un centre, mais en tous les cas, c'est le meilleur centre du match, c'est celui qui aurait pu permettre au Real de réduire la marque bien avant. Mais évidemment, sinon il a été dangereux balle au pied et c'est très très souvent le cas. Et il peut nous coûter le troisième but encore plus rapidement que ça a été le cas finalement. Mais je réitère, pour moi, défensivement, je vois aucun latéral gauche au monde qui est plus efficace que lui, et dans le 1 contre 1, et dans la gestion de la profondeur, et dans l'alignement. Et je trouve que c'est très très souvent sous-estimé, sous-coté. Mais moi, je l'ai trouvé encore une fois important dans ce match-là, parce que le Real a quand même énormément subi. On subit 29 tirs. Et quand il était là, je pense qu'on en subit une vingtaine. Et il y avait énormément de vagues, de vagues et de vagues. Et les centres sont beaucoup plus venus du côté de Carvajal que du sien.
Rebondir.
Non, enfin moi je trouve qu'il est vraiment trop problématique avec ballon. Alors autant son jeu sans ballon, ok, mais même ce soir, non, moi je le trouve vraiment pas bon. Et je veux dire, quand on est passé où on avait avant un mec comme Marcelo qui justement apportait offensivement, alors peut-être que comme tu dis, c'est une tactique d'Ancelotti, mais dans le foot moderne, je vois pas comment c'est possible de jouer sans latéraux. Enfin, du moins sans latéraux hyper techniques. Quand on voit City, par exemple, un mec comme Cancelo. Mais c'est le jour et la nuit, tu vois. Et pour moi, un mec comme Mendy, au bout d'un moment, ça peut être préjudiciable justement de voir qu'il ne peut pas animer son côté comme ça. Donc après, tu dis le meilleur centre du match. Moi, je pense que bien qu'il ait fait un match un peu cata, celui de Vinicius sur la tête de Benzema est quand même bien meilleur. Après, c'est mon avis, mais
c'est une très bonne passe. C'est pas ce que j'appellerais un centre. C'est un extérieur du pied. Ah, c'est pas un centre. Mais bon, bref, là, on rentre dans le détail. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Après, je pense que ce que tu dis sur Mendy, sur Cancelo, je suis d'accord avec toi, hein. Alexander Arnold, Cancelo, mais on va comparer Ancelotti, Guardiola et Jurgen Klopp. On a deux entraîneurs ultra offensifs qui aiment le beau jeu, et on a Ancelotti qui est la plus grosse tarlouse du monde. Je veux dire, c'est le mec le plus frileux de la terre. Donc forcément, oui, moi ça me surprendrait pas qu'il demande à ses latéraux de pas passer le milieu de terrain, exactement comme un coach peut te le dire en district. Ça me surprendrait pas. Peut-être que je m'égare et que je dis n'importe quoi, mais franchement, ça ne me surprendrait pas que ce soit une consigne.
Probablement. Mendy, là, c'est vrai qu'il a deux trois trucs, notamment sur les sorties de balles.
C'est des éclairs. Tu vois, ça arrive une fois sur 10.
Sur les sorties de balles ?
Ouais.
Oh, je le trouve dur là. Je trouve que sur les sorties de balles, il se débrouille pas mal. Et j'ai l'impression qu'il a une confiance en lui. Assez
ouais, il a un crochet intérieur qui souvent fait mal, soit pour revenir en retrait ou pour tout simplement faire un crochet sur son vis-à-vis. Sur les sorties de balles, franchement, ouais, je suis pas d'accord avec toi, Coralie. Sur le reste, techniquement, je suis d'accord. Hein, il peut perdre 3 ou 4 ballons dangereux par match ou tous les deux matchs, et c'est ultra préjudiciable. Mais sur les sorties de balles, je trouve que c'est un gars super à l'aise.
Ouais, en puissance, hein, souvent. Il met son corps en opposition. Il cherche le contact, il met son corps en opposition. Il sort un peu les fesses, puis hop, il pousse un peu le ballon sur le côté et puis il passe. Mais non, mais ça marche. Donc moi, je trouve que défensivement, sur les sorties de balle, il s'en sort plus ou moins. Alors après, encore une fois, sur le troisième but refusé, si finalement il est pas refusé, on a peut-être un discours encore plus dur. Mais globalement, je trouve quand même que sur les sorties de balle, il s'en sort. Mais après, offensivement, effectivement, il y a un gros problème. Et le problème, finalement, il est plus...
C'est hyper décevant, parce que quand tu le voyais à Lyon, offensivement, il était super fort. Et ouais, je trouve qu'on n'a jamais vu ça au Real, quoi. Je comprends pas, c'est une énigme.
Mais ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, Coralie. Moi, tous mes potes lyonnais, quand il a signé, m'ont dit qu'il était exceptionnel offensivement et que c'était pas ouf défensivement. Et on voit absolument le total opposé au Real.
Bah ouais.
Mais là, du coup, il y a un souci, notamment, enfin, surtout en fait, d'effectif. C'est-à-dire qu'il faut un. Bon, on a Marcelo qui, finalement, en théorie, est justement le profil. et le profil opposé à Mendy. Donc, au final, il faut aller chercher au minimum. Si on part du principe que Ferland Mendy est une assurance conservée, il faut absolument que dans l'effectif, après Marcelo, on aille chercher un mec qui. Au contraire, offensivement, est capable justement de faire les différences.
Bah ouais, t'as Miguel.
Il a 9 passes. Il a 9 passes. C'est le deuxième meilleur passeur de Segunda B, mais il a 9 passes décisives. C'est Miguel. On l'a ce mec-là.
Mais même, il a joué un peu en début de saison. Il avait joué contre Mallorca, puis alors après, on l'a plus vu.
Il a pas eu des petits soucis. Bon. Il a chopé le
Covid. Là, il est blessé longtemps, là.
Ouais, mais il était, enfin, avant d'être blessé, il avait déjà. Déjà migré vers Raoul depuis un moment.
Ok, parlons des autres défenseurs, notamment Carvalho, on en a déjà un peu parlé. Les deux centraux, Alaba et Nacho. Pas foufou.
Moi, je les ai trouvés absolument pas bons. En tout cas, je les ai pas
déjà. Le premier but déjà.
Je les ai pas trouvés mauvais, mais déjà à partir du moment où je pense qu'il y a dû avoir 50 duels de la tête dans le match et je pense qu'on en a gagné 0. Et en tous les cas, sur les corners, c'est une certitude. Que le Real a gagné aucun duel de la tête, si ce n'est le dernier de Karim Benzema, je crois, qui doit être à la 114 ou 116e. C'est le seul ballon pris par un joueur du Real Madrid sur un corner ou un coup franc de Chelsea. Et c'est honteux parce qu'on a été constamment mis en danger sur ces phases-là. Et d'ailleurs, on a eu donc l'occasion d'Avers, la tête
de Rudiger aussi.
Rudiger, on a eu un duel de la tête perdu juste avant la dernière action où Avers frappe à côté également. Enfin, on en a eu 4-5 comme ça et à chaque fois, Alaba a été cataclysmique et Nacho n'a pas été bien mieux non plus. Donc, les deux font pas un gros match du tout.
Après, c'est vrai que c'est pas leur point fort la tête. Même à la base, ça n'a jamais été son point fort. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. De toute façon, quand juste avant le match, on savait que ça allait être Nacho à la base, on savait très bien qu'on allait souffrir dans les airs. Parce que Militao gère justement dans les airs. C'est vrai qu'à la base, c'est un peu compliqué. Et Nacho, ce n'est pas son point fort non plus. Donc, moi, ça ne m'étonne pas.
Ouais, justement, c'est ce que relève Madi. Nacho à la base sont trop petits et fragiles physiquement. Heureusement que Lukaku était blessé. C'est vrai que ça... Bon, à mon avis, j'aurais pas été étonné si on aurait vu du Casemiro. À mon avis, avec Lukaku, il aurait fait reculer Casemiro un peu comme,
comme à l'aller.
Ouais, je pense. D'ailleurs, si on parle un peu du coaching de Carlo, on termine donc on termine défensivement avec une ligne Lucas Vázquez à droite, Casemiro, Carvajal, pardon, avec Alaba dans l'axe et Marcelo à gauche. Casemiro qui était sorti, lui qui sort jamais. Le jour où peut-être, enfin, c'est pas le jour, c'est dans une soirée où on avait absolument potentiellement besoin de lui pour justement reculer derrière. Est-ce que vous pensiez vraiment qu'on allait tenir 30 minutes avec cette défense?
Moi, je vais être honnête, non. Moi, non. Moi, déjà, il n'y avait aucun central de métier. Vázquez à la base c'est un ailier et Marcelo défensivement c'est pas ça, donc franchement je m'étais dit ça va être compliqué.
En fait c'est quel putain d'intérêt de prendre Rafa Marin si tu mets Carvajal dans l'axe en fait, c'est quoi l'intérêt?
Bien,
ça sert à rien de prendre des mecs du Castilla à des postes définis si en fait tu vas pas les prendre, prends-les pas.
C'est pour le nombre de toute façon.
Ouais non mais je veux enfin. Là, pour le coup, on a ce cas-là. C'est-à-dire que Militao est absent, Vallejo a le Covid, et donc, bah, potentiellement, si tu as un des centraux qui se blesse, et ça a été le cas, bah, tu l'as pris pour ça, forcément. C'est forcé, tu l'as pris pour ça. Et donc, alors, il y a certainement ce côté expérience, et je peux comprendre plein de choses. Au final, ça l'a fait, donc tant mieux, et Carvajal a rempli le contrat, peut-être que Rafa Marin aurait fait une rentrée catastrophique, mais je ne vois pas l'intérêt de prendre un central. Et quand tu n'as plus de central, bah, tu ne le mets pas. C'est vraiment un truc que je ne capte pas.
Après, avec Carlo, ce n'est pas étonnant. Hein.
Non, mais c'est pas étonnant. Hein. Mais, enfin, après, je vais pas refaire son portrait ce soir, parce que je pourrais lui mettre des balles dans la tête sur à peu près tous ses choix. Mais ouais, c'est des trucs que je ne comprends pas. C'est prendre des risques. En plus, Rafa Marin, pour le coup, c'est vraiment un ovni en Segunda B. C'est vraiment le joueur cette saison... révélation qui montre qu'il est largement au-dessus du niveau de cette division. Et en plus de ça, il est immense. Il est immense et l'une de ses principales qualités, c'est le jeu de tête. On était en difficulté dans le domaine aérien. Il va mettre un mec comme Carvajal qui fait 1m20 à la place de ce gars-là. Bah, ça l'a fait, mais ça le fera peut-être pas tout le temps. Et c'est des choix comme ça qui peuvent coûter cher au Real. Ça passe difficilement contre le PSG, ça passe difficilement contre Chelsea. Et aujourd'hui, on est content parce que la qualif, elle est là, mais la vérité, c'est que, mis à part des sommes d'individualité et puis cet ADN-là, on n'a rien, quoi. Le fond de jeu, il est pas bon. Et parce qu'il y a des choix qui sont pas bons et surtout parce qu'il y a un 11 qui n'est pas bougeable. Et donc, soit il est fatigué, ce 11-là, ou soit les joueurs qui jouent, ben, c'est 20 minutes tous les 6, 7, 8, 9 matchs. Et forcément, tu n'as pas d'automatisme et tu n'as pas de rythme. Et sans ça, c'est très, très compliqué d'être efficace à chaque entraînement en jeu.
Parce qu'il nous dit Marcelo n'est plus le premier capitaine du Real, il n'a pas pris le brassard. Si, je crois que le premier capitaine. Bon, il l'a pas pris, je pense, parce qu'ils avaient autre chose à penser, je pense, ils sont pas fichés.
Non, puis en cours de match, ils le font jamais, je crois. C'est déjà arrivé et je crois qu'ils le font jamais.
C'est pas un détail auquel je prête forcément attention, mais si. Marcelo est toujours le numéro 1. Est-ce qu'il a déjà joué un match avec le Real Rafa Marin? Je crois pas.
Pas de match officiel. Il me semble pas qu'il était là en Copa. Non, il me semble pas. Non.
Même en pré-saison, j'ai pas.
Si, ouais. Pré-saison, il me semble que si. Et bon, quand j'avais fait l'article sur lui, il me semble qu'il avait déjà fait partie d'un match de pré-saison. Je suis pas certain, mais il me semble que si.
Bon, c'est normal que vous n'avez pas de souvenirs si vous ne suivez pas le Castilla. Sinon, Vázquez est bien rentré l'air de rien en n'étant pas à son poste. Il ne fait jamais de mauvais matchs, même si ce n'est pas incroyable, dit Romain. Vázquez, il fait une très bonne entrée en jeu.
Ouais.
Après, c'est devenu son poste un peu quand même, parce qu'il n'est plus utilisé en tant qu'ailier.
Je crois une fois cette saison, non? Pas contre l'Inter, par exemple.
Il a dû jouer une ou deux fois, peut-être une seule fois, mais oui, ça lui est arrivé, mais ça lui arrive, comme tu dis, quoi, rallye, bien, bien moins souvent, voire pas du tout.
Un mot sur les offensifs. Benzema et Vinicius. Bon, allez.
Ben, je laisse le plaisir à Rota de parler de Vinicius, je pense.
Non, franchement, je vais même pas le fustiger. Parce que très honnêtement,
Rota 2020.
ça craint, hein, mais je vais basculer dans le. Alors, je vais vous étonner même, hein, je pense que retenez bien ces mots, mais je pense qu'il bascule dans le presque légendaire. C'est-à-dire que il fait partie maintenant des joueurs qui, même quand ils sont pas bons, parviennent à être décisifs. Et ça, c'est très très fort. Et ça a été aussi le cas de Benzema, parce que Benzema, on peut revenir sur son match, mais je l'ai vraiment pas trouvé bon du tout non plus. Il a énormément décroché, il a été énormément volontaire, et sur ça, il sait bien le faire. Mais par contre, plus haut sur le terrain, c'était plus compliqué. Mais Vinicius, ouais, il a pratiquement tout fait à l'envers. Des mauvais choix, des tentatives de dribble un peu complexes, beaucoup de lenteur dans ses transmissions, dans ses prises de décision, jusqu'à cette passe qui forcément délivre le Real. Et je me dis que voilà, on a besoin de coups de génie de ce genre de joueur. Et c'est aussi pour ça que Carlo Ancelotti le laisse aussi longtemps sur le terrain, parce qu'il sait qu'il est capable de ce genre de geste, et parce que physiquement, il sait qu'il est capable de jouer autant de temps et d'être bon jusqu'à la fin. Et donc, j'ai plutôt un avis positif, parce que je me dis qu'il va se donner, il va se battre, il va tenter. Et le Real a besoin de ça pour créer des espaces, pour écarter des blocs. Et en ça, ça reste positif. Incroyable.
Ouais.
Non, mais en fait, je suis assez d'accord.
Bah
Pour
oui, de toute façon, oui, cette année, enfin cette saison même, c'est lui le facteur X du Real. C'est-à-dire que quand le Real est empêtré dans des résultats galères, sur un coup de génie, machin, même s'il est enfin il est dégueu, il va réussir à sortir la passe au bon moment. Et justement là, bah, la passe qu'il met sur Benzema, bah, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Alors que juste avant, il avait raté plein de choses, il n'a pas énormément passé son vis-à-vis. Mais oui, aujourd'hui, c'est devenu ce genre de joueur qui, même s'il est nul, arrive quand même à sortir une passe au bon moment. Donc franchement, il faut le féliciter. Et oui, ce soir, il est pas bon. Mais franchement,
Il est décisif, ouais.
fait, voilà. Donc, bah, il n'y a rien à dire.
Ça fait presque un mois que Vini n'est pas bon, mais il y a toujours un éclair de génie par match. Bon, je pense qu'on peut même remonter plus d'un mois. Hein, ça.
Depuis qu'il est revenu du Brésil et qu'il avait joué 46 heures après.
Ouais, c'était quand?
Alors, je sais plus quand c'était, mais
Mars.
à ce moment-là, ouais. Et après, il a. Mais aussi, je pense que, comme on disait pour Casemiro, pour Kroos, c'est un mec qui tourne jamais. Il joue tous les matchs, il joue même avec le Brésil, et je pense que là aussi, il commence un peu à être émoussé. Et ça se comprend parce que lui, vraiment, justement, son jeu est aussi basé sur sa débauche d'énergie. Donc, ben, s'il commence à être un peu moins affûté, ça peut devenir compliqué.
Bonne
Mais
rentrée de Rodrigo également, hein, forcément, monsieur Ligue des Champions, un peu qui a été décisif, alors que il est très en difficulté cette année, mais encore une fois, la Ligue des Champions lui sourit assez.
de toute façon, déjà, une chose qui est assez inéluctable, pardon, c'est qu'il est bon, en tout cas meilleur, bien meilleur quand il rentre en cours de match que quand il est titulaire. Quand il est titulaire, franchement, il est quasiment jamais, mais jamais satisfaisant, quoi. Il a 10-15 bonnes minutes, souvent assez tôt dans le match d'ailleurs, et après, bah, à chaque fois, il disparaît.
Ouais, c'est clair.
Et sur Rodrigo, moi, je pense toujours que c'est un joueur qu'il faut prêter. Il faut prêter à un club intermédiaire. Je pense que c'est vraiment le profil de joueur qui, dans un club avec un peu plus de responsabilité, avec plus de temps de jeu, plus de poids dans l'équipe, tout simplement, avec une équipe qui jouera un peu plus. Pour lui, je pense que c'est un joueur qui peut vraiment élever son niveau et potentiellement du coup développer. Pour l'instant, ça reste trop trop juste pour le Real.
Clairement.
Ah bah, Fineboy qui n'est pas d'accord avec moi, Rodrigo a sa place au Real.
Moi, non, je suis plus de ton avis, ouais.
Ouais, moi aussi.
Actuellement, après l'avenir,
Ah, même,
actuellement.
je pense que c'est un joueur qui est beaucoup plus à l'aise à gauche. On l'a vu à droite, ça reste quand même assez difficile. C'est quelqu'un qui est plus à l'aise à gauche. Et avec Vinicius, ça sera compliqué dans les années à venir si Mbappé signe. Encore pire. Et je pense que ce sera éternellement un remplaçant. Je ne pense pas qu'au Real Madrid, soit quelqu'un qui puisse s'installer comme un titulaire. J'en suis même convaincu.
C'est devenu un grand joueur, c'est bon. Il faut recruter à droite. Non, je trouve que Rodrigo, c'est un remplaçant au Real. Il est d'accord avec moi. Recruter à droite, oui. Et ça fait longtemps qu'on cherche une recrue à droite. Parlons peut-être un peu de la suite. La suite, c'est l'Atlético ou Manchester City pour les demi-finales. En sachant que, si j'ai bien vu, entre deux, Villarreal a fait la surprise. Il a fait sortir le Bayern de l'autre côté.
Ouais.
Ouais, il y a eu 1-1.
C'est ça.
Et ouais, j'ai pas du tout suivi. J'ai juste vu un tweet où j'ai vu du jaune et, de la joie. Donc.
Et Villarreal égalise, ouais, c'est ça. Ils ont tenu alors que, comme eux à l'aller ont ultra dominé, là, le Bayern a apparemment ultra dominé le match. D'ailleurs, ouais, le Bayern fait 24 tirs, mais il ne cadre que 4 fois, donc
voilà. Ouais, allez, j'avais vu le match aller, enfin, j'ai vu le résumé du match aller, Villarreal peut en mettre 4-5, donc...
Ça. Et là, c'est Choukou Eze qui offre l'égalisation à la 88e, donc beau scénario.
Ok, et du coup, si on se projette plus à court terme, avant de parler potentiellement d'une finale, Manchester City ou l'Atlético? D'abord, vous sentez quoi et vous préférez quoi pour aller?
Moi, je sens City, mais je préfère l'Atlético.
Évidemment, ouais, évidemment, pareil. Je sens City, les balayer. Enfin, les balayer, peut-être pas au Wanda. Ça sera pas si évident, mais je vois City passer. Mais à choisir, oui, évidemment, je prends l'Atlético tous les jours.
Puis, quand on voit la croûte que Simeone avait pondue au match aller, je vois pas comment il peut passer s'il refait la même... demain, quoi. Son 5-5-0, là, c'était abominable à voir.
Ouais. Voyons qui demande, vous pensez que le Real pourrait remporter cette Ligue des Champions?
À partir du moment où le Real est dans le dernier carré, le Real peut remporter la Ligue des Champions, ça, c'est une certitude. Après...
la grosse cote.
Ouais, c'est la grosse cote, quand même. Ça reste la grosse cote. Face à des équipes comme City ou potentiellement Liverpool... En fait, c'est la demi-finale qui va tout conditionner, parce que le Real en finale, c'est plus du tout la même équipe, mais voilà, il faudra passer la demi. En finale, je me dis que le Real est pratiquement imbattable. En tous les cas, je ne l'ai pas vu perdre depuis que je suis né en finale en Ligue des Champions. Donc, voilà, on va se dire qu'il nous reste deux énormes matchs avant de compter sur un Real stratosphérique.
C'est un peu ce que j'allais dire. Moi, par exemple, Manchester City, sur deux matchs, ils me font très peur. Par contre, sur une finale, il ne me ferait pas peur, tu vois.
Pareil.
Aurélie ?
Ouais, moi, je suis d'accord. De toute façon, sur une finale, c'est plus du tout pareil. Tu ne prépares pas une finale pareille. Donc, oui, puis comme tu dis, en plus, Rota, c'est vrai que ça fait très, très longtemps que le Real n'a pas perdu une finale de Ligue des Champions. Après, ouais, à voir en demi-finale qui le Real prend, parce que c'est vrai que bon, ben, on enterre l'Atlético, mais ils sont encore présents et ils peuvent faire un coup à la Liverpool. Mais City, ce sera très très difficile, surtout face à Guardiola. À voir.
Vous évaluez les chances de qualif du Real à combien contre City?
Ah, par contre, moi je donne pas mon cul, hein, 50-50. Hein,
ouais, moi aussi.
Il ne faut pas déconner non plus. Mais,
Ah ouais?
Ouais, parce que tu sais pas aussi, il reste que 3 matchs. Et tu te dis, je crois que c'est Modric. Qui a dit que si le Real passait Paris, il gagnait la Ligue des Champions. Donc tu te dis, en plus, dans le vestiaire, je pense qu'ils y croient. Donc on ne sait pas. On sait pas.
Après, si on enlève le côté supporter et qu'on se dit, moi, je suis fan de Guingamp, je me dis, ouais, c'est un 70-30 quand même, parce que sur deux matchs, réellement, ça peut être très, très compliqué. Mais ça dépend, en fait. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'approche tactique. Ça dépend de ce que Manchester City aura dans le ventre, parce que c'est une équipe qui se décompose aussi souvent sur la grandeur de l'événement. Donc, à voir quel Madrid on aura, quel City on aura, c'est vraiment du 50-50, parce que dans ces matchs couperets-là, dans ces matchs de cette importance-là, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. On peut avoir une expulsion tôt, on peut avoir une erreur d'arbitrage, on peut avoir un pénalty, on peut avoir énormément de faits de jeu qui conditionnent une rencontre, que c'est c'est imprévisible. Donc pour moi, ça restera toujours du 50-50.
Le hold-up de l'Atlético contre Manchester City. Ouais, c'est un peu.
Ouais, grave. On va pas se cacher.
Ouais. Ouais, l'Atlético, on les dérouille, ça. Y a pas de souci. Enfin, y a pas de souci. L'autre match important, qui est peut-être une finale pour la Liga, en tout cas, c'est dimanche contre Séville. Si on le gagne, le titre, il est acquis. Sentez comment le match?
Bon, allez, je t'en prie.
Moi, je pense que... En vrai, je vois pas comment, sauf énorme catastrophe, même si le Real perd à Séville, je les vois pas perdre la Liga. Parce qu'il reste quoi, 11 points à prendre, en gros, pour être champion. Avec le calendrier que le Real a, quand même, s'ils prennent pas 11 points, je comprends plus rien, quoi. Enfin, après, c'est mon avis, mais je trouverais ça aberrant.
Totalement d'accord. Moi, je pense qu'on est capable de perdre dimanche à Séville, parce qu'il y aura de la fatigue, forcément, il y aura de la fatigue émotionnelle, et puis parce que Séville a bas aussi sa dernière cartouche pour deuxième place, tout simplement, même si ça change foncièrement rien sur les qualifs en Ligue des Champions, il y a forcément des primes de classement à aller chercher, et je pense qu'ils voudront aussi rebondir un petit peu parce qu'ils sont dans une période très très délicate. Et puis, ils adorent nous faire chier aussi. Il y a aussi de ça. Mais malgré le fait que ce match sera difficile et qu'on pourrait potentiellement y laisser des points, je ne vois pas comment le Barça pourrait faire son retard. J'y crois pas. C'est un peu tard.
Surtout que les deux matchs d'après, c'est l'Espagnol et Osasuna. Je me dis, si là, le Real ne prend pas 6 points dans une course à la Liga où justement, ils insistent sur le fait qu'il reste tant de finales à chaque fois, qu'ils prennent tous les matchs pour des finales. Franchement, non, pour moi, c'est pas le match de Séville qui conditionnera le titre, en tout cas.
Ok. Olivier qui m'a dit, j'ai pas vu le maillot Rota, le plus beau, la reprise de McManaman, le râteau de Raoul.
J'espère... Ah, c'est surtout Raoul qui est floqué, là, ouais. Je l'ai cherché pendant 15 ans, celui-là. Ouais. Ah,
lui, il espérait plutôt que ce soit Redondo.
Alors, Redondo, ouais, sur la passe face à Manchester, à Raoul, justement, à Manchester, à Old Trafford, était exceptionnel, les joueurs exceptionnels. Mais après, je suis Raoulista, donc forcément, des maillots de Raoul, j'en ai plein. Et celui-ci, pour le but qu'il avait marqué face à Valence en finale, j'étais obligé de mettre Raoul.
Bon, on va s'arrêter là, je vois qu'il est déjà 1h du matin, en tout cas en France ou en Espagne, ou peut-être sur le même plage horaire que nous. Merci Rota, merci Coralie, merci à tous de nous avoir suivis comme d'habitude. Le replay sera dispo sur toutes les plateformes d'écoute comme d'habitude. Nous on se retrouve très rapidement, peut-être après le match contre Séville dimanche, on verra ça. D'ici là, prenez soin de vous, passez une bonne semaine et puis on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao.
À très vite.